À quelques mètres, c'est le vide complet, et puis à quelques mètres, on a 200, 300 mètres de vide. Donc oui, des fois, ça fait un peu peur. Là, on ne parle pas, on reste le plus concentré possible.
Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, et aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un aventurier. C'est Damien, qui a fait l'ascension du Kilimandjaro, et est donc arrivé à son sommet à 5895 mètres. 7 jours de grimpe, 7 jours d'aventure, de rencontres, de défis, une expédition rêvée mais qui est devenue réalité.
La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com.
Salut Damien.
Bonjour, bonjour Florent.
Depuis quand tu rêves de faire cette ascension du Kilimandjaro?
Ça un peu arrivé par hasard. Ça a commencé en janvier 2022. Le projet du Kilimandjaro est arrivé en début d'année 2022. À l'origine, je devais partir en janvier 2021 pour un voyage de 3 mois entre l'Argentine et le Pérou. Le Covid est arrivé, a tout décalé. Et puis derrière, au fur et à mesure des années, ce projet de 3 mois s'est transformé en 5 mois. Et puis j'ai voulu continuer à réaliser quelques rêves, celui de faire un safari notamment. Et puis en me renseignant sur les destinations, il y avait la Tanzanie qui apparaissait le plus propice pour ça. Et puis il y avait aussi le projet du Kilimandjaro qui arrive à ce moment-là. Donc depuis mars 2022, grosso modo.
Donc une fois que tu te dis « Allez, c'est parti, je m'envoie dans ce projet de l'ascension du Kilimandjaro », il se passe quoi? Quelles sont tes premières démarches pour accéder à ce rêve?
Les premières démarches, déjà, il faut obligatoirement passer par une agence. C'est une obligation, par un guide. Le Kilimandjaro, l'ascension du Kilimandjaro ne peut pas se faire en autonomie ou ne peut pas se faire seul. Donc la priorité d'abord, c'est de contacter une agence qui va nous mettre en relation. Alors soit une agence française, soit une agence locale qui va, elle, nous mettre en relation avec les guides et toute l'équipe qui va nous accompagner pendant l'ascension. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est se renseigner au niveau des tarifs, combien ça coûte, donc de mettre assez de côté. Et puis après, s'en va tout le matériel adéquat pour faire une ascension de ce type-là.
Alors pour le matériel, justement, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu as mis dans ta besace?
En priorité, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique à usage unique est interdit dans le pays. Donc obligatoirement, il faut faire avec. Donc obligatoirement, il faut avoir une gourde en métal. Les camel bags, on peut l'avoir parce que c'est pas spécialement usage unique, mais il faut faire attention, et ça on en parlera un petit peu après parce que ça peut geler pendant l'ascension finale. Donc ça, c'est une des premières choses à prendre en compte. Et puis après, tout le reste, ça va être vraiment une veste, un pantalon assez chaud pour l'ascension. Un sac de 20 à 30 litres maximum qu'on va porter nous-mêmes, et un autre petit sac qui va être pris par les porteurs. Et puis après, tout ce qu'il faut pour la montagne, pour la haute altitude, donc des t-shirts souvent en mérinos pour éviter de transpirer et éviter de les changer régulièrement, parce que c'est un peu plus compliqué d'avoir énormément d'affaires pendant cette ascension. Des polaires, beaucoup de sous-vêtements, des bonnets, des gants, une casquette, des lunettes. De la crème solaire aussi, parce que le soleil à cette altitude, ça tape assez fort. Une frontale, ça c'est vraiment le béaba, et puis des chaussures de randonnée et des bâtons. Ça c'est, on va dire, le gros à prendre avec nous, mais dans tous les cas, l'agence fera une liste pour toi, pour savoir ce que tu dois emporter, quoi.
Alors, toi, tu te décides à faire cette ascension du Kilimandjaro, mais est-ce que tu avais une forme physique spéciale? Est-ce que tu es un grand sportif, toi, à la base, ou pas forcément?
Oui, un grand sportif, du sport assez régulièrement. Je fais de la course à pied, de la randonnée. Et puis juste avant le Kilimandjaro, j'étais pendant 5 mois en Amérique latine. Donc j'ai pu tester aussi mes conditions physiques à haute altitude. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Kilimandjaro, on monte à des altitudes à presque 6000 mètres d'altitude. Et automatiquement, il faut pouvoir voir si notre corps répond positivement à cette altitude. Il y a une façon de le faire, soit de faire un test d'hypoxie, mais qui peut être plus ou moins fiable en fonction de plusieurs paramètres. soit de se confronter directement à la haute altitude, ce que j'avais fait au Chili, par exemple, avec l'ascension du Cerro Toco à 5600 mètres d'altitude. Donc ça a permis de me voir et de jauger un peu ma capacité physique et mentale aussi à haute altitude. Donc oui, il y a une condition physique à avoir, mais la haute altitude, c'est votre corps peut ou ne peut pas, même si vous êtes très très bien entraîné, votre corps peut mal réagir à la haute altitude. Donc,
quand on réagit mal, c'est
à prendre en compte.
Nausées, migraines, grosse fatigue,
exactement,
hein, c'est ça.
Oui, c'est exactement ça. Ça s'appelle le mal aigu des montagnes. Donc, c'est grosso modo, c'est la diminution de la teneur en oxygène dans l'air à des altitudes assez élevées, donc qui va perturber un peu notre l'équilibre qu'on a un peu à basse altitude. Et donc, les symptômes les plus courants, c'est des maux de tête, des nausées, des vertiges, une fatigue accrue, la perte d'appétit, vraiment, voilà, être très très fatigué. Et c'est un peu le cercle vicieux. Et puis, le seul moyen, le seul remède, c'est de redescendre, en vérité.
Alors, on est parti là pour l'ascension du Kilimandjaro, mais avant ça, il y a quand même la question du budget. Ça coûte combien de partir se faire une ascension Kilimandjaro?
Alors, ce qu'il faut savoir pour faire l'ascension du Kilimandjaro, donc comme je disais, c'est que obligatoirement il faut passer par une agence, un guide, et il y a aussi une taxe. Il y a une taxe pour rentrer, pour passer, on va dire, le petit portail vert du Kilimandjaro et du parc. C'est 1 000 $ directement, et ça, on le dépense pour le pays. Et derrière, grosso modo, ça va dépendre aussi du cours qui est entre le dollar et l'euro à ces moments-là. Ça va dépendre aussi si vous souhaitez prendre un supplément tente seul avec la location de duvet aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tout le package, ça m'a coûté 2 896 € pour ces 7 jours d'ascension. Donc, à l'intérieur, vous avez donc la tente, le duvet, vous avez 3 repas par jour, vous avez tous les guides. Derrière, ce qu'il faut prendre en compte aussi, ça va être le visa obligatoire. Il coûte 50 € de mémoire. Derrière, vous avez les pourboires aussi, les pourboires que vous allez donner au chef guide, au guide suppléant, et puis lui va redistribuer aux cuisiniers, aux porteurs, etc., etc. Vous avez aussi les vaccins, ce qui est important. Il y a le vaccin de la fièvre jaune à faire, et puis bah, l'avion aller-retour. Grosso modo, alors moi j'avais couplé ça avec 3 jours de safari, et puis avec tout l'équipement à faire, vous avez aux alentours des 6 000 € à peu près.
Et alors, c'est peut-être bête hein, la question que je vais poser, mais la notion de porteur, est-ce que à un moment dans ta tête, il n'y a pas une petite culpabilité de te dire « attends, je fais porter mes sacs par une autre personne ?» Tu vois ce que je veux dire ?
Si. Oui, bien sûr, bien sûr. On en a aussi discuté avec les personnes avec lesquelles j'étais. Et effectivement, quand on voit, et puis ils cadencent, des fois ils ont des conditions, des conditions de travail assez compliquées. Même du matériel, des chaussures qui sont des fois totalement trouées ou des choses comme ça. Donc derrière nous, ce qu'on avait pu faire, c'est que moi personnellement, on m'avait donné un montant sur les pourboires. Et moi, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai donné un petit peu plus, histoire de récompenser un peu ces personnes-là, parce qu'effectivement, sans eux, il est presque impossible de faire cette ascension, parce qu'automatiquement, bah, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est tente, tout ce qui est toilette, parce que oui, effectivement, on a une toilette sur place, et bah, tout ça, c'est géré par ces personnes-là, et vraiment... On est même presque mieux accueillis que dans un hôtel. On mange extrêmement bien et ils sont aux petits oignons pour nous. Donc, effectivement, il y a une sensation d'un peu de culpabilité quand nous, on a juste notre petit sac et puis qu'on doit marcher plutôt sereinement et calmement à comparer à eux qui portent énormément, énormément et qui font tout pour nous.
Donc, j'allais presque dire les véritables héros de l'aventure, c'est quand même ces porteurs qui, eux, font cette aventure-là plusieurs fois par mois et qui ont vraiment l'habitude quoi, de faire ces allers-retours.
C'est exactement ça. Nous, dans notre groupe, on les a appelés les Warriors parce que c'est sans cesse démontage de tente, remontage avant même qu'on arrive. C'est-à-dire que au moment où on arrive sur un camp, toutes les tentes sont montées, la cuisine est en train d'être faite. On n'a presque rien à faire, hormis les remercier, hormis discuter un petit peu avec eux et de les admirer, parce que clairement, sans eux, cette ascension, elle est beaucoup beaucoup plus difficile, voire même impossible.
Allez, c'est parti, c'est le jour 1, et qui est consacré à la reconnaissance du terrain, à la connaissance également avec le reste du groupe. D'ailleurs, dans ce groupe, vous êtes combien ?
Dans ce groupe, on est 4, ce qui est plutôt rare. Moi, par l'agence avec laquelle j'étais passé, j'étais tout seul à partir à ces dates-là. Et mes 3 compères qui étaient avec moi, eux aussi ont été rapatriés avec mon agence à moi. On a été regroupés dans ce groupe-là, on était 4. Donc il y avait Estelle, Dylan qui était un couple de Suisse et Johan qui venait de France, de Paris. Et on s'est rencontrés donc la veille, le 16 juillet, on s'est rencontrés avant de partir sur le Kilimandjaro. Et au fur et à mesure, une alchimie s'est vraiment montée entre nous. On a le fait d'être 4, ça a permis d'apprendre à se connaître réellement, totalement, parce que on voyait beaucoup de groupes au minimum 10 voire 15, et ce qui fait que ils se retrouvent énormément dans ces groupes-là.
Il y avait une appréhension avant de rencontrer le reste du groupe, appréhension sur avec qui je vais être, avec qui je vais tomber, est-ce qu'on va s'entendre ?
Oui, il y a toujours une petite appréhension. Alors après, moi, je revenais de 5 mois de périple où j'avais rencontré pas mal de personnes, pas mal d'inconnus avec qui j'avais pu passer pas mal de temps aussi. Mais oui, effectivement, il y a toujours une appréhension parce que là, on est dans un mode de voyage et d'expérience qui est différent. C'est-à-dire que là, on va mettre notre mental, notre physique à rude épreuve. Et si on n'arrive pas spécialement à s'entendre avec les personnes qui sont autour de nous, ça peut un peu plomber l'ambiance, ça peut un peu plomber l'atmosphère, tout ça. Et heureusement, je suis tombé sur 3 personnes vraiment juste formidables. Et même au niveau des guides et des équipes qui étaient avec nous, c'était juste incroyable.
Il n'y a jamais eu de tension dans le groupe ?
Franchement, non. Non, parce que on a tous été... je pense que quand on fait ces expériences-là avec des inconnus, on peut prendre un peu plus sur nous que quand on le fait avec des personnes qu'on connaît. Ouais. Et automatiquement, et puis il n'y avait pas de comment dire, on exprimait tout ce qu'on avait. Si on se sentait pas bien, on le disait. Si on se sentait bien, on le disait. Les personnes qui se sentaient bien, ce qui était mon cas, moi je me sentais très bien pendant toute cette ascension, j'ai pu un peu aider mes compères à aller un peu mieux en essayant de leur parler, de savoir ce qu'ils avaient besoin de parler, d'évacuer ou des choses comme ça. Donc, y a toujours une petite appréhension, mais là c'était top.
On le disait, première journée, et c'est donc la reconnaissance du terrain. On découvre cette forêt qui est luxuriante, elle est magnifique. Est-ce que tu avais déjà vu auparavant une forêt aussi verte ?
Non, quand ce jour-là, on arrive dans cette forêt, et moi je lève les yeux en l'air, et puis je vois des arbres que j'ai jamais eu l'occasion de voir, quoi. Donc non, c'est tout nouveau pour moi. Je découvre au fur et à mesure de notre avancée une nouvelle facette de la nature. Et puis ça, c'est que le premier jour, quoi. Donc non, on découvre au fur et à mesure, et c'est incroyable.
Le deuxième jour va également être marqué par une belle découverte en lien avec la nature, puisque vous assistez à un coucher de soleil incroyable.
Oui, exactement. Ce deuxième jour, en fait, on réveille à 6h30 du matin. Notre journée, on passe à la cime de cette forêt, justement. Et déjà, on se lève je me lève le matin, et puis je tourne la tête, et puis je vois le Kilimandjaro avec un grand soleil au-dessus de ma tête. Donc première découverte de ce sommet. Toute l'ascension jusqu'au Shirak Cave, camp à 3850 mètres. Et puis ce soir-là, j'assiste au plus beau coucher de soleil de ma vie. Et puis on fait des bêtises à prendre des photos un peu diverses et variées ensemble.
Et on se rend compte que un coucher de soleil en photo, c'est jamais aussi beau qu'un vrai coucher de soleil.
Non, jamais, jamais. Et puis en plus de ça, Je termine de prendre mes photos sur la partie un peu nuageuse où il y a juste le mont Meru. Le mont Meru, c'est aussi une autre montagne assez célèbre en Tanzanie qui est juste en face du Kilimandjaro. Le mont Meru qui pointe juste au-dessus des nuages. Je commence à rentrer dans la tente pour aller manger. Et puis quand on ressort, à ce moment-là, je vois au-dessus de ma tête que la nuit est tombée, mais surtout qu'il y a une pluie d'étoiles qui se trouve au-dessus de moi. Et puis là, je passe à peu près un peu plus d'une heure dans le froid à photographier ce ciel assez fou, parce que oui, il y a eu l'un des plus beaux couchers de soleil de ma vie, mais il y a aussi cette capacité à voir les étoiles qui était juste extraordinaire.
Alors quand on fait ce type d'expérience, l'ascension du Kilimandjaro, on ne va pas tout de suite au sommet, on fait forcément des étapes. Là, il va y avoir une première étape d'acclimatation à 4600 mètres. Vous êtes où exactement ?
Notre départ, il se fait donc au Shira Cave Camp à 3850 mètres et on fait un passage. Le passage, ça s'appelle la Lava Tower. J'arrive à 4600 mètres d'altitude et on mange pour la première fois à haute altitude. Alors pas pour moi parce que j'ai déjà eu cette expérience là, mais par exemple pour Estelle et Dylan, c'est la première fois qu'ils montent aussi haut. Et puis on mange à ce moment là et c'est là où arrive le mal des montagnes pour Dylan et Johan, et ça commence un petit peu à arriver où là à cette altitude-là, on n'est pas habitué à ça, même en Europe, même si on veut faire des randonnées assez courantes, on ne va jamais vraiment monter à plus de 4000, c'est très très rare. Donc là, on arrive vraiment à une étape assez cruciale pour savoir si oui ou non, est-ce que mon corps est capable de prendre toute cette pression-là, que ce soit même mentale ou physique, et puis de voir comment ça va se passer pour la suite. Donc, Première étape à 4600 mètres d'altitude.
Il y en a qui se disent peut-être que je vais m'arrêter là.
Je ne sais pas si ça a été une discussion. Il ne me semble pas. On n'a pas discuté de ça. Mais effectivement, je pense que dans la tête peut-être de Dylan, il se disait j'espère que ça ne va pas continuer. Mmh. Et j'aurais eu la même réaction. On est là pour aller au sommet. Donc effectivement, quand... Au troisième jour, tu te rends compte que physiquement, il y a un petit coup de moins bien, et le moral aussi en pâtit un petit peu. Mais c'est ça qui a fait aussi un peu notre force, c'est que je pense que le fait qu'on soit que quatre, qu'on puisse se parler assez ouvertement, qu'on puisse être réunis tout le temps ensemble, ça a fait que c'était un bon point positif.
Auparavant, trois jours avant, on était dans une forêt luxuriante. Désormais, à 4600 mètres, on peut dire que le décor a changé ?
Totalement. Il change, le paysage change totalement. Il n'y a plus du tout de verdure. On voit encore mieux le Kilimandjaro et c'est là où je me rends compte vraiment de l'immensité de la montagne qu'on est en train de gravir. Là, on se retrouve vraiment presque au pied même de cette roche et là ça devient assez incroyable, mais non, là c'est vraiment beaucoup plus volcanique en vérité, et là il n'y a plus du tout de verdure quoi.
On en est à la moitié de cette ascension du Kilimandjaro, c'est le quatrième jour et on va se présenter devant le mur de Barranco. Ça, c'est un mur de 200 mètres de hauteur, c'est vraiment l'étape la plus risquée de ce périple.
En fait, au tout départ de notre ascension, quand Timo, notre guide francophone, nous présente toute l'aventure, toutes les étapes, et puis même en amont, moi je m'étais renseigné sur ça, je savais que ce jour 4... allait être le plus dangereux entre guillemets. Pourquoi ? Parce que on se retrouve devant, on se lève le matin, je me lève le matin et là on voit le gros du gros, c'est le mur de Barranco, c'est 200 mètres à flanc de falaise où de temps en temps il y a besoin d'escalader. Alors c'est attention, c'est pas de l'alpinisme, Mais il y a quand même besoin de temps en temps de mettre les mains, de mettre les pieds. Et surtout, il y a le coin le plus dangereux, c'est un endroit qui s'appelle le bisou du rocher. Parce que l'espace entre le rocher et le vide est tellement fin qu'il est presque obligatoire d'embrasser le rocher. C'est assez drôle parce qu'au final, on reste quelques dizaines de secondes dessus pour se faire prendre en photo, alors que c'est censé être l'endroit le plus dangereux. Mais ça, c'est l'étape vraiment la plus technique, je dirais, du Kilimandjaro. Il y a des endroits qui sont assez complexes, assez compliqués. Et surtout, en fait, moi, j'avais plutôt peur vraiment pour les porteurs parce que eux, ils ont les sacs, ils ont leurs propres sacs, ils ont nos sacs sur la tête et on les voit passer à des endroits qui voilà, à quelques mètres, c'est le vide complet, et puis à quelques mètres, on a 200, 300 mètres de vide. Donc oui, des fois, ça fait un peu peur. On ressent une certaine adrénaline et une certaine pression sur cette partie-là, mais elle se fait en... Si on avance vite, elle se fait en 2 heures de temps, et puis c'est fait, quoi. Faut juste... Le plus important, c'est de rester concentré, et c'est ce que nous a dit directement Timo. Là, on ne parle pas, on reste le plus concentré possible, et on aura tout le loisir, tout le temps derrière, une fois qu'on sera au sommet, de pouvoir en parler, de pouvoir déconner, de pouvoir rire. Mais là, c'est concentration voilà, la plus totale.
La cinquième journée est une petite journée, vous allez rapidement vous mettre au lit parce qu'il faudra dormir très vite, sachant que dans 2 heures, le réveil va sonner, il sera 23 heures et à minuit, vous partirez pour le sommet du Kilimandjaro.
Eh bien, on se lève le matin, je me lève le matin, donc toujours pareil, à 6h30, on est réveillé par notre équipe. Aujourd'hui, on sait que c'est la plus courte, mais c'est là où on va monter le plus haut avec la Lava Tower. Donc on va aller à Barafugo Camp à 4600 mètres d'altitude. On n'a que 4 km et 3 heures de marche parce que le soir même, on va entamer l'ascension du Uru Peak, donc qui est le sommet du Kilimanjaro. Et ce matin-là, c'est Johan qui décide d'arrêter. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'il avait des maux de tête et il a très mal dormi cette nuit-là, et donc il décide de ne pas continuer parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour lui de continuer jusqu'à 4600 mètres, sachant qu'il ne ferait pas l'ascension du Kilimandjaro. Donc il décide d'arrêter, il nous en parle, et pour lui c'était pas un souci, il avait fait ce qu'il avait à faire. Mais pour moi et pour SL et Dylan, on était un petit peu ça nous a un peu voilà, ça nous a un peu piqué, dans le sens où on avait envie de terminer tous ensemble, malheureusement Johan décide d'arrêter, enfin après, ce qui est totalement louable de sa part aussi, c'est son corps, il sait très bien, il se connaît très bien. Et donc c'était normal pour lui de faire ça, mais effectivement pour nous, on a repris un peu le moral un petit peu après, mais sur le moment, on s'inquiétait aussi pour lui, quoi. En fait, le jour 5, donc celle qui nous amène au Barafu Camp, on arrive assez tôt, on arrive à 12h30, ce jour-là. Après, on mange à 17h30 au plus tôt, puisqu'on doit se réveiller à 23h. On doit se réveiller à 23h pour un départ à minuit. Réveil à 23h, c'est-à-dire très peu dormir, partir de nuit, avec un vent assez fort, et puis voilà, c'est la concrétisation de tout ce qu'on a fait depuis ces 5 jours, et puis on part à minuit pour arriver au sommet au lever du soleil. Ça, c'est l'objectif, et cette journée là c'est 19 km, c'est 1300 mètres de dénivelé positif, 2800 mètres de dénivelé négatif, puisque une fois qu'on arrive au sommet, on doit redescendre à un camp qui est bien inférieur. Mmh. Et c'est 13 heures de marche dans la journée, en ayant dormi peut-être 2 heures la veille.
Et là, comment on se sent quand d'abord, quand on fait tous ces kilomètres, 19 kilomètres de marche dans la nuit, qu'on n'a dormi que 2 heures, il se passe quoi dans notre tête? On pense à quoi?
C'est assez... c'est, en fait, on l'obligation de poser le cerveau et d'avancer, et de faire pas à pas au fur et à mesure. On est parti avec 3 guides, donc nous on était tous les 3 avec Dylan, Estelle et moi. On part avec 3 guides avec nous. Un premier guide qui est devant, Dylan, Estelle qui sont devant moi. Moi je ferme la marche avec un de mes guides derrière. Et c'est la frontale, la nuit la plus totale avec des vents, des rafales de vent qui peuvent être très très fortes avec un ressenti sur ce moment-là, un ressenti peut-être à moins 15 degrés, quelque chose comme ça. Et puis c'est marcher pendant environ 6 heures du camp Barafu Camp à Uhuru Peak qui est le sommet du Kilimanjaro. C'est 6 heures de marche assez impactante physiquement et mentalement pendant cette période-là.
Quand on est en train de marcher avec le vent qui fouette ses joues, quand on a froid avec un ressenti de moins 15 degrés, il n'y a pas un moment donné où on est en train de se dire « là, je ne sais pas pourquoi je suis là
». Personnellement, non. Personnellement, en fait, j'allais très bien. Vraiment, j'allais très bien, hormis d'avoir un petit peu froid aux pieds. J'étais très bien couvert, j'étais mentalement prêt à ça, je m'étais préparé vraiment mentalement à ça. Alors après, effectivement, on peut très bien se préparer mentalement et avoir la réalité en face, et des fois c'est deux choses différentes, mais moi de mon côté en tout cas tout allait très bien et c'était assez long, mais la préparation dans ma tête, je savais que ça allait être comme ça, donc non, sur ça allait pour moi en tout cas.
Quand on est enfin tout en haut du Kilimandjaro, quand on est au sommet, on voit quoi?
On voit à perte de vue, on voit un horizon qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'ai très rarement vu ce genre de paysage et d'horizon, vraiment. C'est presque de l'infini. Et puis en plus de ça, on a eu un très très beau lever de soleil. Pareil, on avait une mer de nuages qui était juste devant nous et le soleil qui apparaissait au fur et à mesure à travers ces nuages. On a eu le plus beau coucher de soleil de notre vie, je pense, sur le deuxième jour, et je pense que j'ai eu le plus beau lever de soleil de ma vie là-haut, quoi. Et puis il y a l'émotion, il y a ce côté on a atteint notre objectif, on est un peu sur le toit du monde, et c'est effectivement le toit de l'Afrique. C'est presque inexplicable en fait, en vérité. Même les photos, même les vidéos, c'est une sensation qui est assez unique que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer dans ma vie ou d'avoir dans ma vie, quoi.
Tu es au sommet du Kilimandjaro, ça y est, cette ascension a été réussie. Il y a quelqu'un à qui tu penses, ou il y a plusieurs personnes auxquelles tu penses, des personnes qui pourraient être là avec toi, des personnes que tu pourrais rendre fières par cette ascension?
Bien sûr, mes parents, mon frère. En plus, mon frère, son anniversaire, c'était la veille, c'était le 21 juillet. Donc automatiquement, il y avait tout ça. Surtout mes parents, évidemment, qui m'ont toujours soutenu dans mes projets, et puis mes amis aussi, puisque ils savaient que c'était un projet que j'avais à cœur depuis quelques années. Donc voilà, mon entourage qui m'a toujours soutenu dans les différents projets que j'ai eu dans ma vie, et notamment celui-là, parce que c'est un projet quand même, quoi qu'il arrive, à risque, parce que on fait de la haute altitude et on s'embarque dans une expérience un peu folle, mais toujours avec des personnes derrière nous, donc toutes ces personnes là évidemment, et puis mes guides qui nous ont vraiment aidés avec notre équipe de porteurs. Et puis mes acolytes qui m'ont aussi, quoi qu'il arrive, aidé pendant cette ascension, à rigoler, à penser à autre chose, à moins stresser. Donc à toutes les personnes qui ont pu participer de près ou de loin à cette aventure.
Le septième jour, c'est que de la joie, joie de d'être là avec le groupe. Il y a des chansons qui se font, il y a des danses également. C'est que du bonheur.
Oui, exactement. Après être redescendu du pic et avoir eu une journée assez compliquée la veille, on se retrouve ce dernier jour. Alors, il est un peu spécial ce dernier jour. On est très très content. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. On est très content, évidemment, d'avoir fait cette ascension. On est très heureux sur ça. On partage vraiment un moment de joie très intense avec tous les porteurs qui, eux, chantent. Mais nous aussi, on chante. On avait l'obligation de choisir une chanson et de chanter aussi en leur honneur. On a un petit discours pour eux, pour les remercier personnellement de tout ce qu'ils nous ont apporté, de tout le travail qu'ils ont accompli pour nous, d'essayer de les remercier un à un. Et puis après, à 7h45, on part. On part pour 3 heures de marche et on retrouve cette forêt luxuriante. Mais dans ma tête, voilà, même s'il y a peu de confort, j'avais pas spécialement envie de quitter cette aventure parce que c'était une évasion complète. On n'avait pas de réseau, on n'avait pas d'internet. On vivait juste un moment humain avec des personnes juste incroyables. Mais c'était vraiment que de la joie et de la bonne humeur.
Avant de se quitter, Damien, qu'est-ce que tu dis à celles et ceux là qui nous écoutent et qui se demandent si c'est un projet pour eux que de faire l'ascension du Kilimandjaro ?
L'ascension du Kilimandjaro, c'est pas qu'une simple aventure de randonnée, c'est vraiment tout un package de rencontres humaines, de partage, de bonne humeur et de découverte et puis sans un sourire, un regard, un petit check avec une autre équipe, un encouragement, une petite pensée. Le Kilimandjaro en lui-même ne serait pas ce qu'elle est actuellement, cette expérience-là. Et moi, j'encourage vraiment et vivement toutes les personnes qui ont cette envie-là, ce projet-là d'y aller les yeux fermés, parce que si vous avez des conditions physiques et après au niveau météo aussi, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais tout le long de l'ascension, on a vraiment eu un beau soleil et on n'a pas rencontré de pluie ou d'intempéries, vous allez vivre une expérience assez dingue et je pense que vous allez vous en rappeler toute votre vie. Donc, en tout cas, personnellement, c'est l'expérience la plus folle de ma vie et je regrette en aucun cas d'avoir participé à ça.
L'ascension du Kilimandjaro par Damien. Merci infiniment, Damien, d'être venu nous raconter cette aventure. Les aventuriers reviennent dans un mois. D'ici là, si vous souhaitez vous aussi nous parler de votre aventure, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail, contact@lafabriqueaudio.com. La Fabrique avec un K. Allez, salut.
Les aventuriers. Un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? Contact@lafabriqueaudio.com.
lafabriqueaudio.com.